Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, on a encore un épisode où on rentre en profondeur dans le sujet des conversions, puisque j'ai invité Romain Collignon. Donc Romain Collignon, c'est le créateur d'un site qui s'appelle Le Décodeur du Non-Verbal. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Romain a utilisé son site comme une plateforme pour absolument automatiser tout son système marketing, de la capture du prospect à la vente d'un produit d'appel, à la vente de produits d'upsell, etc., etc., de façon automatisée, evergreen, et ce, en particulier grâce à un outil qui s'appelle ClickFunnels. Donc aujourd'hui, j'ai invité Romain pour lui poser des questions sur le pourquoi et le comment de l'automatisation d'un tunnel de vente. À quoi ressemble son tunnel de vente actuel, étape par étape, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il commence par tel élément et avec tel élément ensuite. Il a testé pas mal de choses et il partagera avec nous les différentes choses qu'il a testées et ce qui fonctionne pour lui en ce moment, avec bien sûr ses conseils pour appliquer dans votre propre business ce tunnel. On parlera également de l'outil ClickFunnels. Je pense qu'il est utile de dire maintenant que Romain travaille directement avec les créateurs de ClickFunnels. Il était au départ un simple client de ClickFunnels. Aujourd'hui, il est associé avec eux. Donc, on rentrera dans les détails de cet outil-là et puis de voir qu'est-ce que ça apporte, puisque c'est un outil qui se veut tout en un pour pouvoir gérer des tunnels de vente du départ jusqu'à la fin. Et au final, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour aller plus loin dans les tunnels de vente, Robin a créé un groupe Facebook pour parler de ce sujet-là. Donc, si vous êtes intéressé, le lien du groupe sera dans l'article de ce podcast. Et donc, sans plus de transition, je vous présente cette interview avec Romain Collignon. Romain, bienvenue sur le podcast.
Salut Stan, salut.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Ok, je m'appelle Romain Collignon, je suis web entrepreneur, infopreneur, formateur en ligne depuis maintenant 2011, donc ça fait déjà quelques années. Et j'ai commencé sur le web avec un site qui s'appelle Le Décodeur du Non-Verbal, un blog, je dirais même, sur lequel je transmets des conseils sur comment comprendre la gestuelle de l'autre, comment comprendre son comportement et aussi comment avoir plus d'impact avec ses gestes, son langage corporel, comment avoir plus d'impact dans ses interactions. Et donc, j'ai lancé ce blog-là en 2011. Et d'un blog est née finalement une aventure entrepreneuriale, puisque quelques années après, donc j'ai lancé en 2011, en 2013, je vivais de ce site à travers des formations en ligne sur le thème de la communication verbale que je dispensais via le blog.
Tu dis que de ce blog est née une aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'au départ, quand tu as lancé le site, tu avais dès le départ une ambition d'en vivre ou c'est arrivé plus tard ?
C'est arrivé plus tard. Enfin, j'avais le nez pour ça. Si tu veux, à l'époque, moi, je suis de formation, je suis ingénieur physicien. Et je travaillais à l'époque pour le ministère de la Recherche. Et c'était un blog que je faisais à temps partiel. Donc, c'était vraiment pour partager mon expérience ou tout au moins mon apprentissage du langage corporel. Je le faisais donc via le blog. Et au fur et à mesure de mon avancement, si tu veux, sur le blog, j'ai commencé à créer une petite communauté qui m'a posé la question, « Romain, est-ce que tu fais des formations autour de ce sujet-là » Et donc, à l'époque, j'étais salarié. Et je n'avais pas l'opportunité de pouvoir diffuser ce savoir en présentiel, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup, tu vois, pour ce genre de thématiques autour du coaching, de la psychologie. Il y a pas mal de formations qui sont données en entreprise, donc finalement en présentiel. Et donc moi, à travers le blog, si tu veux, je me suis dit, OK, comment je peux diffuser ce savoir et comment je peux créer un business autour de cette thématique, tout en pouvant le faire en gardant mon job à côté. Et donc c'est à travers ce questionnement que j'ai commencé à me dire « Ok, je vais lancer des formations en ligne sur le sujet. » Donc, j'ai vu l'opportunité. Bon, j'ai vu quand même qu'aux États-Unis, il y avait une niche. Cette niche-là était quelque chose qui fonctionnait. J'ai vu aussi qu'en France, il n'y avait personne vraiment sur le sujet qui traitait la thématique et notamment des formations en ligne sur ce sujet. Donc, bah, tu sais que c'est à la fois bon signe et mauvais signe, hein, quand y a personne sur le sujet d'y aller. Et en même temps, je me disais, bon, il y a quand même une opportunité, puisqu'aux États-Unis, ça fonctionne. Donc, si tu veux, j'avais le nez que ça pouvait fonctionner, mais bah, fallait quand même faire ses preuves dessus, quoi.
Aujourd'hui, tu peux nous donner une idée des chiffres sur le site en termes, voilà, que ce soit de trafic, d'abonnés, de CA pour se faire une idée du volume que tu as atteint?
Ouais, alors aujourd'hui, il y a 34 000 plus ou moins abonnés à la newsletter. Donc, c'est une liste que j'ai constituée maintenant en 5 années. Au niveau du trafic, c'est pas énorme, hein, c'est 800 visiteurs uniques par jour. Et moi, j'aime bien raisonner, si tu veux, quand on parle souvent de chiffre d'affaires, mais moi, j'aime bien raisonner avec un chiffre qui a la valeur par prospect, à savoir combien de, si tu veux, de valeur monétaire tu peux tirer finalement d'un prospect qui s'inscrit à ta newsletter. Et là aujourd'hui, donc c'est quelque chose dont on va sûrement discuter tout à l'heure, mais cette valeur elle est à 3,5. Et c'est quelque chose que je crois est très important si tu veux dans le développement d'une activité en ligne, notamment lorsqu'on a une activité qui est basée sur des tunnels de vente automatisés plus que sur des lancements. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir aborder ces sujets-là tous les deux aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à discuter.
On va en parler. Juste avant ça, je voudrais voir avec toi comment est-ce que tu calcules cette valeur-là par prospect? Quelle est la formule que tu utilises dans ton business pour la mesurer?
Ben, la valeur par prospect, finalement, elle est assez simple. C'est le nombre de prospects que tu as sur tes listes, tout au moins sur ta liste, si tu en as une. Et le chiffre d'affaires, finalement, que tu génères via ce nombre de personnes que tu as sur ta liste. Et une division toute simple, hein, finalement, qui te permet de savoir combien d'euros tu génères par prospect qui s'inscrivent sur ta liste. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, parce que si on fait ce genre de calcul sur des opérations un peu ponctuelles, ce sont des chiffres qui sont un peu faussés. Moi, ce que j'aime faire, surtout, c'est de regarder cette valeur par prospect chaque semaine.
Donc tu fais 3,5 euros par prospect par semaine?
Ouais, c'est ça. En moyenne, c'est ça, ouais, exactement.
D'accord. Et est-ce que du coup tu segmentes cette valeur par prospect? C'est-à-dire que le plus utile c'est de se dire combien est-ce que tu peux dépenser pour acquérir un prospect. Est-ce que tu calcules par exemple, nous souvent ce qu'on utilise c'est la valeur à 90 jours. Quelqu'un qui rentre à 90 jours selon les sources, est-ce que c'est un travail que tu fais là-dessus?
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, ce travail, je le fais assez à la louche, tu vois. Enfin, dans le sens où on peut être très très pointilleux, tu vois, sur les chiffres. Moi, ce que je regarde vraiment, c'est notamment lorsque j'utilise des sources de trafic payantes, c'est combien finalement j'injecte en publicité et combien je génère dans la même semaine. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des séquences qui peuvent soit directement convertir au premier jour, soit on a des séquences qui peuvent convertir, comme tu dis, jusqu'à 90 jours. Ces chiffres-là, on peut effectivement les mesurer. Moi, j'essaye de voir tout simplement à la semaine combien j'ai injecté et combien j'ai récupéré derrière.
Ok. Donc parlons justement de ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre les lancements et les séquences automatisées. Donc l'idée ici, c'est que en particulier chez les gens qui vendent de la formation, il y a deux grandes façons dont tu peux vendre de la formation. Soit tu vas faire un lancement qui va être un événement ponctuel où tu vas ratisser un maximum de trafic, envoyer des mails, envoyer des vidéos, etc. pour essayer de faire des ventes dans un créneau qui va être en général de 2 semaines ou de 3 semaines sur le lancement, ou soit tu vas faire un tunnel de vente, c'est-à-dire une séquence automatisée qui contient des pages de capture, des pages de vente, des emails de relance, des séquences d'upsell, etc. Toi, tu tombes plutôt du côté des séquences automatisées. Est-ce que tu fais aussi des lancements?
En fait, je crois qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, mais je crois qu'il faut utiliser l'un et l'autre, sachant que un précède l'autre. Enfin, je vais m'expliquer si tu veux. Moi, quand je suis arrivé dans l'infoprenariat, j'ai suivi l'école, si on peut parler de deux écoles différentes finalement de marketer ses produits. Je suis arrivé dans l'école du lancement avec des partenaires, lancement de produits même sur ma liste interne. Et je crois qu'un lancement, c'est quelque chose qui est une étape obligatoire, d'une part pour parfaire son marketing pour savoir si une offre va convertir, parce que très honnêtement, créer un tunnel de vente automatisé sur une offre qui ne convertit pas, ça ne sert à rien. Donc je pense que le lancement, c'est quelque chose d'obligatoire à faire. Ceci dit, une fois qu'on a fait un lancement et qu'on a effectivement fait un pic de vente, parfois on peut générer un chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'année sur quelques jours. Finalement, après, il y a ce pic de vente et il faut finalement redoubler d'efforts pour refaire un lancement ou recréer un nouveau produit ou refaire un nouveau lancement pour générer du chiffre d'affaires. Et je crois que c'est là où il y a quelque chose de très intéressant à faire. c'est de prendre justement ce lancement ou ce contenu marketing qu'on a réussi à créer pour lancer un produit et de le plugger dans une machine de vente automatisée, dans un tunnel de vente automatisé. Donc c'est là où moi j'ai développé ce genre de choses sur le business du décodeur du non-verbal parce que d'une part, au départ, je faisais des lancements tous les 6 mois de mes formations. Et en même temps, je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient, lorsqu'ils cherchaient une solution, ou lorsque tout au moins je pouvais leur apporter une solution grâce à mes produits, ce n'était pas ponctuel, ce n'était pas une fois tous les 6 mois, ce n'était pas une fois par an, mais c'était finalement chaque semaine. Je n'avais pas de saisonnalité dans mon activité. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre finalement de ventes, ou tout au moins de clients que je pouvais pas acquérir parce que je ne vendais pas mes formations, j'attendais le prochain lancement. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à développer des tunnels de vente automatisés sur l'ensemble de mes formations. Donc pour répondre à ta question, moi je suis un fervent supporter du lancement pour lancer un produit, pour créer cette émulation autour du produit, et après, mais déjà de l'anticiper ce lancement en se disant, OK, je vais le plugger ensuite dans une machine de vente automatisée.
Quand tu vas construire ton tunnel de vente automatisé, est-ce que tu réutilises les mêmes éléments que ton lancement ou est-ce que tu vas repenser les choses d'une façon différente? C'est-à-dire, est-ce que ton lancement est structuré de la même façon qu'un tunnel de vente ou est-ce que c'est deux approches différentes à ton sens?
Ce qui est sûr, c'est que dans un lancement, il y a une grosse différence entre un lancement ponctuel et on va dire un tunnel de vente automatisé, parce que finalement, un lancement, si on prend les lancements en vidéo qu'on peut voir sur le web, c'est finalement un tunnel de vente en soi. Sauf que la grosse différence, c'est le côté ponctuel d'un lancement où on va réunir des partenaires ou ce genre de choses, et le côté evergreen automatisé d'un tunnel de vente. Donc oui, la différence, tout au moins comment j'anticipe un lancement ponctuel qui va devenir automatisé, c'est dans cette notion de scarcity, dans cette notion de rareté, qui est un des éléments ou un des leviers psychologiques importants dans un lancement qui va déclencher la décision d'achat. Quand il y a des portes qui se ferment à telle date pour s'inscrire à une formation, eh bien, il y a cette rareté qui est créée et qui finalement doit aussi pouvoir être recréée d'une certaine manière dans un lancement, dans un tunnel de vente qui est automatisé.
Donc, quelle technique tu utiliserais pour créer cette scarcité dans un tunnel de vente qui est mis en place de façon evergreen?
Il y en a plusieurs. Alors aujourd'hui, il y a des, par exemple, des compteurs qui te permettent de créer cette scarcity. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez important lorsqu'on fait des tunnels de vente automatisés et qu'on crée cette rareté, c'est le côté éthique, à savoir, ça ne veut rien dire que la formation, elle ferme dans 2 jours si finalement la personne revient sur cette page 4 jours après et que ça soit toujours ouvert. Par contre, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est de créer de la rareté, par exemple, en enlevant des bonus. Tu vois, pour enclencher une décision d'achat dans l'instant.
Donc en gros, j'arrive sur ta page de vente et tu me dis, OK, cette offre est disponible pendant 14 jours, tu vas avoir le produit plus tel bonus, plus tel bonus, plus tel bonus. Mais si tu attends plus de 14 jours, tu peux toujours acheter le produit, mais tu perds tes bonus.
Ouais, ça c'est une occasion de faire de la rareté. Moi, je sais que dans mes communications, j'ai de la rareté qui est vraiment toute simple, et j'explique simplement dans mon dernier email sur une séquence de segmentation que je ne parlerai plus de cette offre-là. Voilà. Et c'est tout. Et ça crée de la rareté en soi aussi.
Ok, donc pour rendre les choses un peu plus concrètes, je voudrais voir un petit peu comment sont. Voilà, je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment sont construits les tunnels de vente sur décodeur du non-verbal. Donc en particulier, je voudrais partir du point de départ. Donc si je vais sur ton site et que je trouve un lien qui se trouve dans le menu, qui est très visible, qui s'appelle Par où commencer, et j'arrive sur une page de capture qui parle d'une formation express à 8 euros. Donc ça, c'est le point d'entrée de ton tunnel.
Ouais, alors elle est pas 8 euros, alors j'ai du mal à m'exprimer sur le site, parce que c'est justement une formation qui, alors ça c'est un tunnel de vente bien particulier qu'on appelle, alors en anglais c'est free plus shipping, on va dire en français c'est offre gratuite plus frais d'envoi, qui est effectivement l'entrée de l'ensemble de mes tunnels de vente.
Donc, grosso modo, ce que tu leur vends, c'est un livre qui est physique, qui est papier.
Tout à fait.
D'accord, et qui est expédié chez eux.
Exactement.
Donc ici, tu as fait le choix, et la plupart des gens à cet endroit-là feraient le choix de donner un e-book gratuit. Toi, à la place, tu as fait le choix de voilà, mettre une barrière de 8 euros pour l'expédition, etc. Et qu'est-ce qui motive ce choix-là selon voilà, pour toi? Pourquoi avoir choisi cette version?
Ouais, alors pour tout te dire, j'ai testé l'autre version aussi avant. Avant, cette formation, elle était purement numérique et elle était accessible, on va dire, contre l'email, quoi. Et j'ai testé ça, en fait, ce format-là, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est de permettre à un prospect, tout au moins de faciliter la transformation d'un prospect en client avec une barrière à l'entrée ultra faible. C'est-à-dire que lorsqu'on a, comment dire, fait une vente initiale même à un faible prix, là on parle de 8 euros, et encore c'est pour payer les frais d'envoi, on a dans la psychologie de l'achat quelque chose qui se passe et qui est très intéressant, c'est que cette personne-là, derrière, va avoir tendance à acheter de manière beaucoup plus importante que si à la base elle avait eu la même chose, mais de manière gratuite. Donc ça, c'était un des facteurs que je voulais déclencher dessus. Mais ce qu'il faut savoir dans les tunnels de vente, c'est qu'il y a la partie, on va dire, visible de l'iceberg, et puis il y a la partie qui est un peu moins visible, c'est ce qui se passe bah, justement derrière le premier achat initial. Et cet achat initial, tout au moins le fait que les coordonnées bancaires soient entrées, comme ce que je venais d'expliquer, c'est que la décision d'achat permet de. Enfin, l'achat initial est beaucoup plus facile. Il y a aussi cette psychologie qui fait que lorsqu'une personne vient d'acheter, elle a tendance à acheter beaucoup plus facilement juste après. Donc, effectivement, derrière cette offre gratuite où simplement les frais de port sont à régler, je fais d'autres offres qui permettent eh bien, d'augmenter le taux de conversion et notamment la valeur par prospect.
Donc, je voudrais te demander ce qui se trouve après, mais juste avant ça, une question qui peut intéresser pas mal de gens qui nous écoutent. Comment est-ce que tu gères la logistique, de l'expédition de ce livre papier?
Ben j'ai quelqu'un qui me l'envoie, tout simplement. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est un des facteurs qui aujourd'hui est. J'essaie toujours d'automatiser mon activité sur tous les plans, niveau vente, niveau acquisition de trafic, facturation, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, l'expédition ou les services d'expédition en France, j'en ai pas trouvé. Il y a des sites qui aux États-Unis permettent de le faire, comme ShipStation, ce genre de choses. En France, j'ai pas encore trouvé le bon candidat pour me permettre d'automatiser tout ça.
Ok. Une fois que, disons que voilà, je m'inscris sur ton site, j'ai payé les 8 euros pour recevoir le bouquin, etc. Que se passe-t-il juste après?
Bien, juste derrière, je fais une offre. Donc une offre qu'on peut appeler one-time offer. Une offre qui permet d'accélérer le processus d'apprentissage de ce que bah, les personnes viennent d'acquérir. Donc c'est une offre qui est limitée dans le temps et qui est juste accessible sur la page de remerciement sur laquelle arrivent les tout récents acheteurs. Et donc l'offre, c'est un kit pour décoder les gestes qui permet d'accélérer l'apprentissage.
Donc, deux choses. D'abord, co combien coûte cette offre-là?
Cette offre, elle est à 47 euros au lieu de 97.
D'accord. Et comment est-ce que tu vas positionner cette offre vis-à-vis de ce qu'ils viennent d'obtenir? Donc, je viens d'acheter quelque chose chez toi. C'est pas encore arrivé dans la poste. Ça va prendre quelques jours pour arriver. Comment est-ce que tu positionnes l'offre qui va se trouver juste après cette première offre?
Ouais, alors il y a un truc qui est peut-être pas mentionné, parce qu'effectivement, là, sur la page par où commencer, c'est peut-être pas l'entrée du funnel, parce qu'il y a une page qui explique bien ce que vont recevoir les gens lorsqu'ils téléchargent, enfin, lorsqu'ils commandent ce manuel, c'est qu'effectivement, ils ont par la même occasion la même version en numérique. Donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'ils ont, avant de recevoir le manuel en soi, ils ont la version numérique qu'ils reçoivent automatiquement. Ceci dit, il y a, je crois, ici un point important d'un point de vue marketing. C'est que lorsque on fait ces tunnels de vente et qu'on enchaîne finalement, on emmène finalement son prospect dans une histoire. Et je crois que derrière l'achat initial, lorsque l'on fait une offre derrière, il y a quelque chose de très important, c'est l'histoire que l'on raconte. J'ai vu trop souvent des offres comme ça après un achat initial qui n'avaient ni queue ni tête avec ce qui venait d'être vendu ou proposé. Ce qui peut créer finalement dans la psychologie de l'acheteur un sentiment désagréable, et ça forcément on le veut pas. C'est comme si on disait voilà, t'as acheté ça et maintenant ce que je te propose bah c'est mieux que ce que tu viens d'acheter. Forcément ça laisse un goût amer suite à l'achat. Donc l'idée d'une part c'est de lorsque l'on sur la page de remerciement après l'achat initial, la chose à faire c'est de remercier finalement pour le premier achat et bien confirmer que tout est bon, tout est OK. La commande, elle est dans les starting blocks, elle va partir par la poste dans quelques heures. Donc ça, c'est une des premières choses, moi, que je fais avant même de faire une autre offre. Et généralement, une fois que je les ai remerciés, ensuite, je présente une problématique ou tout au moins une frustration ou quelque chose que mes prospects vont rencontrer dans le futur et qu'aujourd'hui, ils n'en sont même pas conscients. Et c'est là où je positionne finalement un deuxième produit qui va être vendu sur cette première page d'upsell.
Ok. Donc essentiellement, ce que tu leur dis, c'est que tu leur permets de préempter une douleur future. En se disant, ok, tu vas recevoir ça, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens qui reçoivent ce livre et qui se lancent dans ce processus rencontrent telle ou telle difficulté. Du coup, j'ai créé cette formation qui vous permet de contourner cette difficulté, etc. C'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a différentes façons de le faire. Alors là, dans ce cas bien précis, effectivement, là, le produit que je propose, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer l'apprentissage et en fait de rendre l'apprentissage beaucoup plus facile. En fait, c'est du do it yourself. C'est-à-dire que plutôt que ça soit à eux de le faire, je leur pré-mâche tout le travail, je leur fais et c'est ça que je leur propose. Mais j'ai d'autres formations, notamment qui, tu vois, ce que j'expliquais tout à l'heure au tout début de l'interview, c'est que dans la communication non verbale, il y a deux facettes. Il y a la facette de décoder la gestuelle de l'autre pour mieux comprendre son prochain. Ça, c'est une facette. Et puis, il y a l'autre facette, on va dire l'autre facette du non verbal, c'est comment, à travers son propre langage corporel, on peut avoir plus d'impact. Je sais que lorsque je vends des formations sur l'un ou l'autre des deux sujets, la transition est relativement facile à faire. Pour pouvoir proposer une formation qui va justement expliquer l'autre partie du langage corporel. Donc je crois que lorsqu'on fait justement une deuxième offre, un upsell suite à un achat initial, c'est toujours important de positionner finalement le contexte dans lequel cette offre est faite par rapport à l'achat qui a été fait initialement. Il y a des gens avec qui je discute qui, eux, n'ont des fois pas de deuxième produit à la vente, mais qui propose par exemple un coaching. Et un coaching, en soi, c'est une valeur ajoutée supplémentaire que l'on peut proposer sur un deuxième produit à la vente, qui permet justement d'accélérer les résultats.
Donc en l'occurrence, ta première offre, qui l'offre à 8 euros, propose d'apprendre à décoder les gestes de vos interlocuteurs.
Ouais.
Et donc la seconde offre que tu proposes se positionne comment par rapport à ça?
En fait, c'est un ensemble de fiches pratiques où toute la gestuelle est en fait, à portée de main. C'est un truc qui télécharge sur leur iPhone, sur leur ordinateur, avec des vidéos à l'appui, tu vois. Donc il y a vraiment un approfondissement finalement de la thématique.
Ok. Et suite à cette offre-là, est-ce que tu as une continuité sur ce funnel?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans la partie initiale, c'est-à-dire dans ce que là on est en train de discuter, le manuel de formation puis le kit derrière, ça s'arrête là. J'ai fait d'autres tests auparavant où j'avais essayé de mettre deux autres formations qui se sont tout simplement pas avérés concluants, ces tests-là. C'est d'ailleurs un truc très intéressant à toujours garder en tête de tester ces offres derrière l'achat initial. Mais par contre, ce qui se passe après, c'est que ce manuel finalement de commande de la formation express, derrière, j'ai d'autres formation que je propose à la vente, mais non pas l'achat initial, mais espacé dans le temps. Donc plus tard finalement, à travers les emails que j'ai pu capter, la communication que je fais à la suite de ça.
Donc, disons que quand quelqu'un va rentrer sur ta liste par ce biais-là, pendant quelle durée de temps est-ce qu'ils vont recevoir des emails de vente liés à tes différents produits? Voilà, sur quelle durée tu continues à tenter de vendre des choses à ce prospect dans l'autorépondeur?
Alors, si la personne elle est intéressée par tout ce que j'ai à lui proposer, là, aujourd'hui, sur cette activité, j'ai 7 produits différents. Ça va tourner autour de 45 ou 50 jours, si vraiment il fait l'ensemble de la séquence. Le truc, c'est que ce ne sont pas simplement pour reprendre un peu tes termes, là, ce ne sont pas forcément des emails de vente qui sont, comment dire, préparés à la suite de l'inscription initiale. Il y a beaucoup d'éducation aussi derrière. C'est-à-dire que moi, chaque produit que je propose, avant cela, il y a une séquence marketing avant, que ce soit sous forme de contenu vidéo, que ce soit sous forme de mailing, que ce soit sous forme de test de logiciel, ce genre de choses. Et ces séquences, finalement, elles sont déclenchées en fonction du comportement aussi de la personne qui s'est inscrite sur ma liste. Parce que Sur l'activité du non-verbal, si tu veux, j'avais un problème. Alors finalement, c'est un problème qui s'est transformé en challenge. C'est qu'une personne qui va venir s'intéresser à la communication non-verbale, c'est de la communication, c'est une compétence, elle va venir le faire pour différentes raisons. On peut tout à fait imaginer quelqu'un qui a des difficultés amoureuses, qui va s'intéresser à la communication non-verbale pour décoder. Alors un homme peut-être les gestes de séduction féminin et puis pour une femme les gestes de séduction masculin. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une difficulté dans son couple, qui a envie de comprendre l'autre. Ça va être un commercial qui lui dans sa relation avec ses prospects, avec ses clients a besoin de vraiment comprendre les objections de ses clients, ce genre de choses. Si tu veux, moi sur cette activité-là, j'avais vraiment un panel de ce qu'on peut appeler avatar client, qui fait que j'ai dû diversifier à la fois mes offres, à la fois mes formations. Mais aussi la façon dont je communiquais avec les différents centres d'intérêt que pouvaient avoir les gens sur cette thématique.
Donc essentiellement, tu as des emails qui permettent voilà, à la fois pour le prospect de s'informer, à la fois pour toi d'identifier quels sont les différents profils, afin de pouvoir ensuite orienter les gens sur différentes séquences liées à différents produits.
C'est exactement ça. Alors, il y a les emails qui permettent de segmenter. Il y a aussi les pages qui sont visitées. Il y a, en gros, c'est ça, c'est les emails, c'est les ouvertures d'emails ou les clics d'emails ou ouais, les pages qui sont visitées, tout à fait.
Ce que tu viens de décrire, c'est un problème très similaire à ce que moi j'avais sur Séduction Academy. C'est-à-dire que tout le monde était plus ou moins intéressé par la même chose, mais les gens avaient des problèmes spécifiques, voilà, qui étaient plus précis. Et donc du coup, il a fallu trouver comment orienter, voilà, comment d'abord vraiment pouvoir lister ces profils-là, ensuite comment orienter les gens sur les bonnes séquences. C'est quelque chose qui a pris longtemps à faire pour toi. Pour moi, ça a pris un petit peu de temps avant de pouvoir en arriver là, c'est-à-dire de pouvoir construire toutes les séquences, tous les produits, etc. C'est quelque chose, toi, que tu as fait, disons. À partir de quel moment est-ce que tu es rentré dans ce système-là qui est plus complexe à mettre en place pour quelqu'un qui débute?
Ouais, là où tu as raison, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe et je dirais aussi chronophage. C'est pour ça que lorsqu'on discutait tout à l'heure, au début de l'interview, de lancement ou tunnel de vente, c'est déjà ultra intéressant dès le départ, lorsque l'on fait un lancement de produit, déjà d'imaginer, alors juste d'imaginer, pas forcément pas de mettre ça en place, mais quel produit pourrait complémenter l'offre qu'on est en train de faire, même si elle n'existe pas et même si elle existera dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que le jour où on va créer cette nouvelle offre, on sait déjà, faut considérer ça comme une brique finalement de son système d'entreprise. C'est une brique qui va venir se poser juste à côté d'une autre et qui va venir finalement décupler les efforts de ce qui a pu être fait auparavant. Donc là, mes séquences, elles sont mises en place, mais quand j'ai dû les mettre en place, c'était assez rapide, sachant que j'avais quand même fait le travail auparavant d'avoir lancé ces formations-là, d'avoir déjà créé les emails, d'avoir déjà créé les contenus. Donc j'avais simplement, on va dire, à modifier certains éléments pour rendre le marketing automatisé et non dépendant du temps. Mais mis à part ça, c'est... Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Ouais, je vois la question. Disons, l'idée, c'est que pour les gens qui peuvent nous écouter et qui n'en sont pas encore à ce stade-là, quand on va leur parler de ces systèmes-là, ça peut paraître assez intimidant, qu'il y a quelque chose de très complexe à mettre en place avec tout un tas de paramètres différents, etc. Souvent, ce qu'on voit, c'est que un système qui est vraiment complexe comme celui-ci va évoluer de quelque chose de plus simple. Bon, d'abord, un lancement est plus simple parce qu'un lancement est contenu en lui-même, c'est-à-dire que ouais, le lancement, il peut y avoir beaucoup d'éléments, mais ils n'ont pas besoin d'interagir avec tous les éléments de ton site. Moi, je me souviens que dans mon Aweber, à un moment, c'était devenu absolument le bazar parce qu'on avait 6 ou 7 listes différentes qui devaient interagir les unes avec les autres. Et si tu veux, voilà, le système était simple au départ, il y avait une liste, et puis au fur et à mesure, on en a rajouté de plus en plus, jusqu'au point où c'est devenu ingérable, et donc du coup, j'ai dû tout refondre à partir de zéro. Je voudrais avec toi parler justement de cette question technique, en particulier liée à ClickFunnels. Donc on en a déjà discuté ensemble. Toi, tu es quelqu'un qui utilise depuis longtemps cet outil qui s'appelle ClickFunnels, et récemment, tu as même commencé un petit peu à bosser avec eux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu utilises ClickFunnels par rapport à d'autres outils qui sont utilisés par pas mal de gens, du type OptimizePress, LeadPages, etc.
Ouais, Alors, ouais, tu soulèves un point important, c'est que tout ce qui est tunnel de vente automatisé, ce genre de choses, ça peut devenir très très complexe, notamment tu expliquais pour la gestion des listes email. Si on commence à segmenter ces listes email, tout simplement de prospect à client, mais aussi en fonction des produits, ce genre de choses, on arrive vite à un merdier pas possible et finalement on n'arrive pas à utiliser ce qu'on a pu créer. Ce qu'on a pu créer. Quand on vend des formations en ligne, il y a bon, il y a le savoir comment dire, que l'on donne au monde, ou tout au moins que l'expertise que l'on vend. Et puis il y a aussi bah, tous les systèmes que l'on met en place pour pouvoir vendre cette expertise. Et je crois que, donc là, on parle de ClickFunnels, qui est un outil finalement tout en un pour gérer toute la chaîne marketing de A à Z, à la fois de capture des emails, à la fois de création de pages de vente, à la fois de gestion des paiements, de facturation, qui est un ensemble tout en un, qui, bah, à l'époque, si tu veux, pour pouvoir faire des tunnels de vente, notamment tu expliquais ça avec des outils d'autorépondeur, bah, ça devenait vite le bordel. Donc moi j'utilise ça ouais, depuis juin, donc ça va faire 10 mois, et c'est ça qui m'a permis finalement de m'extraire de mon business du décodeur du non-verbal, parce qu'aujourd'hui cette activité me demande une demi-journée par semaine, et notamment parce que j'ai tout mon business au même endroit.
Donc pour donner le contexte à des gens qui voient pas de quoi on parle et qui connaissent pas encore la douleur, et si tu veux mettre en place ce dont tu as parlé là aujourd'hui en termes de tunnel de vente, même un tunnel de vente assez simple, tu auras besoin d'abord de créer des pages de capture, de créer des pages de vente, de créer différentes séquences autorépondeurs avec des exclusions de façon à ce qu'une fois que les gens achètent, ils soient retirés de la séquence de vente d'origine. Donc il faut que tu aies différentes séquences qui soient les unes et les autres exclues. Il faut que tu aies un panier de vente qui peut prendre des paiements. Il faut en plus que tu intègres ça avec un système qui te permet bah, de livrer le produit, que ce soit un produit numérique ou quoi que ce soit. Donc là, directement, tu as 5-6 pièces du puzzle. Et voilà, dès que tu travailles sur ces éléments-là, il suffit qu'il y ait une petite intégration qui ne marche pas et tout d'un coup, les gens ne reçoivent pas ce qu'ils ont payé, les gens ne reçoivent pas les bons emails. Ça peut aussi inclure pas mal de problèmes en termes de tracking, c'est-à-dire que pouvoir mesurer exactement tes taux de conversion, etc., quand tu es étalé sur 4-5 outils, ça peut être compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je crois que, enfin, pour moi, pour ma part, à l'époque, j'étais sur, comme tu dis, 5-6 outils différents pour gérer l'ensemble de l'activité. Et c'était tellement compliqué que je ne le faisais pas. Pourtant, s'il y a bien quelque chose de très, très important, dans son entreprise, c'est d'avoir toujours un œil sur le score, d'avoir toujours un œil sur, les métriques. Quand tout à l'heure, je te parlais de valeur par prospect, moi, c'est quelque chose que je regarde quotidiennement 5 minutes, hein, juste pour checker. Et même bah, de manière hebdomadaire pour faire un bilan. Mais ces chiffres-là, si tu veux, le fait de les avoir sous une même entité, savoir surtout qu'on peut. C'est bien d'implanter un système, mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir confiance en système et de l'oublier. Ce qui, avant, n'était pas le cas, parce que la moindre mise à jour, le moindre lien, finalement, qui ne fonctionnait pas, ça faisait que bah, la machine se cassait la gueule sur elle-même. Et c'est en ça finalement qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en 2016, la technique n'est plus un problème.
Donc, si on peut faire rapidement le tour, quels sont les outils que tu utilises? Donc, tu as ton WordPress, et j'imagine que tu as ton Google Analytics, tu as ton ClickFunnels. C'est tout ce dont tu as besoin aujourd'hui?
Alors j'ai mon ClickFunnels effectivement que je couple à un serveur email d'envoi. Qui pour gérer tout simplement l'envoi des emails, même si ClickFunnels le fait en automatique, si tu veux qu'on utilise n'importe quel logiciel d'envoi d'emails, il faut se baser sur un serveur d'envoi SMTP. Donc j'ai ça en plus, mais sinon, je fais tout sur ClickFunnels aujourd'hui. Ouais. Les ventes, alors plugger à Stripe, bien évidemment, il faut un processeur de paiement, mais ça se fait automatiquement à l'intérieur de ClickFunnels. Ouais, j'ai un WordPress. Alors ça, c'est d'origine, c'est le blog. Même si aujourd'hui, mon blog n'est plus autant utilisé que ce qu'il était avant. Aujourd'hui, alors je sais que tu es un spécialiste du retargeting. Moi, mon blog me sert simplement aujourd'hui à récupérer du trafic chaud sur mes campagnes d'acquisition de trafic Facebook, puisque je communique maintenant très peu dessus, en fait.
D'accord. Et pourquoi est-ce que tu communiques plus dessus? Ça, c'est lié à un changement dans l'allocation de ton temps ou est-ce que c'est une stratégie différente?
Ah ouais, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, cette activité du décodeur du non-verbal, elle est automatisée. C'est-à-dire que, effectivement, je peux recréer du. Pour moi, j'ai vraiment fait des. En 5 ans, 6 ans, j'ai vraiment fait le tour de tout ce que je voulais dire et tout ce que je voulais apporter à mes clients. J'ai pas d'autre chose que je peux créer en plus à ce niveau-là. Par contre, j'avais la responsabilité, ou tout au moins la mission, de toujours pouvoir accompagner de futurs clients qui, eux, avaient besoin de cette information-là. Sans forcément que je sois là physiquement derrière la machine à faire le travail. Donc, d'où l'automatisation.
Ok, et donc du coup, bah, où est-ce que aujourd'hui tu passes ton temps? Est-ce que tu t'es mis à faire du cheval? Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant de tes journées que tu bosses plus autant sur ce business-là?
Alors, qu'est-ce que je fais? Je me forme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là où je me forme beaucoup en ce moment, c'est l'acquisition de trafic, notamment via Facebook. Qui est quand même, tu vois, une machine de vente automatisée, c'est, il faut imaginer ça comme un magasin, tu vois. Un magasin où tu es sûr que lorsqu'il y a 100 personnes qui rentrent dedans, bah, tu vas en avoir un certain pourcentage qui vont repartir avec tes produits. Donc ça, si tu veux, c'est tout le cœur que j'ai pu, le travail que j'ai pu effectuer les précédentes années. Après, plus il y a de monde à venir devant ta boutique, bah, plus tu fais de ventes et plus ton business croît. Donc je passe quand même une certaine activité dessus. Et notamment, eh bien, je commence aussi à expliquer finalement ce que j'ai pu mettre en place sur le décodeur auprès d'autres infopreneurs, d'autres coachs, d'autres formateurs qui ont aussi cette envie d'automatiser leur business. Et je le fais notamment via un groupe Facebook privé qui s'appelle Tunnel de Vente et bah, sur lequel bah, je partage un peu à l'instar de ce qu'on fait. Aujourd'hui, via cette interview, mes conseils et mon expérience sur l'automatisation des business en ligne et l'automatisation des tunnels de vente.
Donc, je pense que c'est intéressant pour beaucoup de monde. Moi, c'est aussi un petit peu le trajet que j'ai fait. C'est-à-dire que tu rebondis en fait sur ce que tu as déjà accompli pour essentiellement te créer une légitimité sur ce sujet-là précis des tunnels de vente.
Ouais, c'est ça. Après, en fait, si tu veux, moi, je parle de tunnel de vente, je parle de marketing, je parle d'automatisation depuis énormément de temps. Sauf que ces dernières années, j'étais plus, on va dire, lorsque quelqu'un me reconnaissait, c'était sous la casquette du décodeur du non-verbal, donc sous la casquette de l'expertise terrain ou de ce que je pouvais enseigner. Donc là, c'est simplement le fait de parler ouvertement de marketing et de tunnel de vente. Non plus en dilettante autour d'un café ou autour d'un Skype, mais de le faire de manière un peu plus officielle.
Ouais. Avant de terminer, bah, sur cette partie-là, je voudrais te poser trois questions rapides. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Alors pour les marketeurs, ouais, c'est moi un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a fait prendre beaucoup d'auteur sur mon activité, c'est The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. Qui est un livre voilà, qui m'a fait prendre conscience de cette stratégie de tunnel de vente et de cette stratégie de comment tu peux apporter plus de valeur à ton marché et comment tu peux créer des produits à plus forte valeur ajoutée pour fidéliser un client. Quand j'ai commencé mon activité, au tout départ, je pensais faire simplement une seule formation. Et je me suis rendu compte que finalement, lorsque quelqu'un achète un de tes produits, il a. Bah déjà, il a envie de plus, quoi. Il a envie d'en apprendre plus de toi. Et ce bouquin-là m'a fait prendre de la hauteur à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un livre que je recommande chaudement.
À ce sujet-là, tu sais quel pourcentage de tes ventes viennent de gens qui ont déjà acheté quelque chose chez toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis?
Bah, c'est un indicateur que je devrais traquer. Mais
D'accord.
bon, c'est sûr, c'est qu'il y a des. Ouais, il y a des ventes récurrentes de clients que j'ai depuis le départ, en fait, hein. Mais j'ai pas cette donnée. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez challengeant parce que dans l'idéal, on devrait pouvoir connaître cette valeur à vie du client, ou tout au moins savoir bah, voilà, la récurrence. Après, sur mon activité, je n'ai pas réussi, ou tout au moins trouvé la façon de mettre ça en place, quoi.
Ouais, c'est vrai que moi je l'avais déjà calculé, mais on avait pas mal fait d'Excel à la main pour recalculer les choses. Il n'y a pas d'outils évident, en tout cas à ma connaissance, qui te permettent de mesurer ça. Si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
D'accord, alors 20 ans, ça veut dire que donc, s'il y a 12 ans, qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Tac, tac, tac. Ben moi, je crois que je me serais dit de. Tu vois, de. À cette époque-là, j'avais déjà des envies entrepreneuriales, mais j'avais un format, on va dire, voilà, travaille bien à l'école et un diplôme, et puis bah, trouve une bonne entreprise sur laquelle tu peux faire carrière. C'était un peu le schéma à l'époque. Moi, ce que j'aurais voulu avoir comme conseil à l'époque, c'est une ouverture d'esprit et d'aller voir en fait des entrepreneurs ou des personnes qui suivent un schéma qui n'est pas normé, tu vois. Tout simplement parce que là, je me rends compte qu'aujourd'hui, que tout ce que j'ai pu faire pendant mes études, tout l'aspect technique, l'aspect. Moi, à la base, je suis censé pouvoir fabriquer des transistors, tu vois, les petits composants qui font que ton ordinateur fonctionne ou ton téléphone fonctionne. Donc, j'aurais bien voulu avoir plus d'entrepreneuriat dans ma vie à cette époque-là et oser aller voilà, frapper à la porte d'une entreprise, d'un entrepreneur et essayer d'un peu d'aspirer son cerveau. Et ça, c'est quelque chose que je fais maintenant continuellement, tu vois, de m'inspirer des gens qui réussissent ou dont les résultats m'inspirent et dont les résultats que ces personnes-là ont, j'ai envie de les atteindre. Donc c'est le conseil que j'aurais donné à mon moi-même de 20 ans.
Troisième question éclair pour toi. Troisième question éclair. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Ouais, c'est l'indice d'enseignabilité. Je m'explique.
Je veux bien, ouais.
En fait, je me suis rendu compte que on a différents niveaux d'enseignabilité, dans le sens où, pour moi, les personnes qui ont du succès, ce sont des personnes qui sont enseignables, c'est des personnes qui se disent qu'ils ont toujours envie d'apprendre. Elles ont beau être à un niveau, si tu veux, de succès que l'on peut estimer, voilà, quand on les regarde, on se dit, elles n'ont plus rien à apprendre, elles n'ont plus rien à démontrer. Et pourtant, ces personnes-là sont toujours continuellement en train d'apprendre, continuellement en train de se dire, OK, j'ai quelque chose à apprendre d'une autre personne. Et je crois que moi, c'est un proverbe qui me guide tout le temps. Je suis toujours à l'affût d'une discussion, à l'affût d'une nouvelle rencontre, tout simplement dans cet esprit d'enseignabilité, parce que s'il y a bien une constante dans la vie, c'est le changement. Et je pense que pour justement pouvoir changer à la fois bah, personnellement, mais aussi dans son activité, il faut avoir voilà, être flexible dans le fait de pouvoir recevoir des enseignements de l'autre. Il est très rare d'avoir quelqu'un qui dit ouais, de toute façon, moi je sais tout, voilà, il n'y a pas de souci, je vais y arriver tout seul. C'est très rare finalement que cette personne réussisse. Enfin, à l'inverse, des personnes qui voilà, ont cette faculté ou tout au moins cette envie d'aspirer le cerveau des autres, généralement, c'est des personnes qui réussissent. Donc, c'est ça mon proverbe ou ma citation qui me vient à l'esprit, c'est garde toujours cet indice d'enseignabilité et cette envie en fait d'apprendre et cette envie aussi de te dire que la constante dans la vie, c'est le changement.
Toi, tu l'as toujours eu, l'enseignabilité. T'as toujours eu cette idée que tu avais tout à apprendre, même au départ, quand tu as commencé?
Non, 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 justement. Non, non, c'est aussi pour ça que je pense que c'est une citation qui me parle beaucoup d'ailleurs quand tu me disais tout à l'heure, OK, quel est le conseil que tu pourrais donner à ton toi-même de 20 ans, c'est aussi un conseil que j'aurais pu lui dire que ben voilà, il y a une façon de voir la vie, il y a une façon de voir le business, mais ce n'est pas la seule et unique façon de le faire, et que c'est aussi en apprenant des autres que et en gardant cette envie et cette faim d'apprendre que bah, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans la vie.
Un excellent mot de la fin. Du coup, pour terminer, ben, où est-ce que les auditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ce que tu fais?
Alors. Je crois que le meilleur moyen de me contacter aujourd'hui, ou tout au moins si vous avez envie de partager, si vous avez des challenges autour des tunnels de vente et de l'automatisation, ça va être de rejoindre le groupe Facebook privé que j'ai mis en place. Moi, je te fais confiance, Stan, pour mettre un lien en dessous du podcast pour le rejoindre.
Ça marche. Qui peut rejoindre, qui devrait rejoindre le groupe Facebook et qui peut le rejoindre? Est-ce que tu as des critères particuliers de gens que tu recherches?
Ouais, les gens que je recherche dans ce groupe, forcément, c'est mon dada, c'est des gens qui se bougent en fait. Hein. Si vous souhaitez rejoindre le groupe simplement pour la culture de l'esprit ou tout au moins voilà de l'information, bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui motivera votre inscription. Moi, ce que j'aime dans ce groupe, ce sont des personnes qui sont voilà qui sont coachs, qui sont formateurs, qui sont experts, qui ont déjà créé ou qui sont en train de créer un produit en ligne, mais qui sont bloqués par ce côté comment je le mets en vente, comment je peux optimiser mon tunnel de vente, comment je peux l'automatiser. Et voilà, si à travers ce descriptif, vous vous reconnaissez, vous êtes les bienvenus sur le groupe.
Et bah donc je mettrai le lien vers le groupe dans l'article qui correspondra à ce podcast à l'adresse marketingmania.fr/Romain Collignon, donc qui sera facile à retrouver pour tous d'entre vous qui veulent s'inscrire. Romain, je te remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode sur les tunnels de vente. Et puis à bientôt dans le groupe Facebook du coup.
Ouais, ça marche. Je te remercie, Stan.
Salut.
Salut.
Je vous remercie d'avoir été avec moi tout au long de cet épisode. Avant de vous laisser, quelques petits éléments dont je voulais vous parler. La première chose, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu passer, j'ai créé une grosse formation sur la publicité Facebook que vous pouvez retrouver gratuitement à l'adresse guidefb.com. Donc, c'est 2 heures de vidéo qui explique exactement le système que j'utilise sur mes propres campagnes et sur celles de mes clients. Vous allez apprendre en particulier comment est-ce que je fais pour lancer des mini-campagnes à partir de 35 euros de budget par semaine et comment optimiser ces campagnes, les rendre rentables et ensuite rajouter du budget au fur et à mesure pour pouvoir grossir les ventes sans trop prendre de risques. Tout ça est 100% gratuit, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à cette formation, elle se trouve à l'adresse guidefb.com. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans certains des autres podcasts, c'est que Marketing Mania n'est plus mon seul podcast. Au début de l'année 2016, j'ai lancé avec Paul de SellingMachine.fr un second podcast qui s'appelle Nomade Digital. C'est un podcast qui ne parle pas tout à fait de marketing, mais on rentre dans pas mal de thématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat. Et en particulier, bien sûr, au fait d'être un nomade digital, c'est-à-dire quelqu'un qui peut voyager autour du monde avec un ordinateur sur lequel on peut travailler. C'est la vie que je mène depuis plusieurs années. Comme vous le savez, j'enregistre souvent le podcast depuis diverses destinations exotiques. Et donc, avec Paul, on s'est associé pour créer ce nouveau podcast qui est publié tous les jeudis. Et si vous voulez le retrouver, il vous suffit de taper Nomade Digital dans iTunes ou de taper nomadedigitalpodcast.com dans votre navigateur. Et puis la troisième et dernière chose que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est bien sûr que tout d'abord, je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des évaluations iTunes dernièrement. Le podcast Marketing Mania est de mieux en mieux référencé sur iTunes dans la catégorie marketing et ça fait vraiment plaisir. Beaucoup d'entre vous m'ont laissé des évaluations très encourageantes et puis très généreuses et qui m'ont aidé à grimper dans les rangs. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fait cette démarche-là, je vous encourage à vous rendre à l'adresse marketingmania.fr/podcast et puis laissez-moi une petite évaluation rapide. Soyez honnête, ça prend que quelques minutes. Et puis, moi, ça m'aide énormément à pouvoir continuer à grandir l'auditorat. L'auditorat, c'est un terme. L'auditorat de Marketing Mania. Et puis, de pouvoir vous amener des invités de plus en plus prestigieux, de plus en plus intéressants. Ou en tout cas, voilà, de pouvoir continuer à toucher du monde. Je vous remercie. C'était 3 choses. Donc, le guide Facebook à l'adresse guidefb.com. Le podcast Nomade Digital à l'adresse nomadedigitalpodcast.com et puis les évaluations iTunes à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Dans tous les cas, je vous remercie du fond du cœur de suivre le podcast. Toujours un plaisir d'échanger avec ceux d'entre vous qui me contactent. C'est toujours un plaisir de voir vos retours et puis c'est tout simplement un plaisir de pouvoir parler semaine après semaine à toutes ces personnes intéressantes. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de votre soutien et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt.